Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit Sous, Gros Sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Ce qui est certain, les étudiants, les jeunes diplômés et les jeunes actifs, à défaut d'être chouchoutés financièrement, sont chouchoutés par les instituts d'études. Il y a l'enquête « Opinion et attitude des jeunes 2021 » de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Il y a le baromètre « Santé jeune 2022 » de la Direction de la recherche des études et de l'évolution statistique. Il y a un rapport tout récent, le rapport « La jeunesse en France en 2023, de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il y a aussi le rapport du Haut Commissariat de la jeunesse, le rapport de l'Observatoire de la vie étudiante et sans oublier le rapport du ministère de l'Éducation nationale. Tous ces instituts ont de quoi donner le tournis et dressent les préoccupations des jeunes diplômés, des jeunes actifs, mais aussi des étudiants. Mais tout d'abord, voyons voir quel est le contexte actuel. Quels sont les enjeux post-études? Quelles sont les options qu'on offre et qu'offre justement cette période vis-à-vis de la jeunesse? Comment bâtir une direction de vie? Pourquoi il faut avoir des repères de vie? Et quels sont aujourd'hui les piliers dans la vie? Et à quel moment il faut y songer? Revenons-en à la première préoccupation, à la première question. Quel est le contexte actuel? Sans être magicien ou devin, nous sommes dans un contexte post-Covid, dans un contexte où il y a aussi de l'inflation, il y a un peu de chômage en fait qui repart à la hausse. Et qu'est-ce qu'on constate en fait? C'est qu'il y a pas mal de postes vacants, d'après ce qu'on dit, mais les jeunes sont massivement frappés par ce qu'on appelle un chômage en hausse. Et aujourd'hui, ce qui préoccupe vraiment les jeunes, c'est d'avoir avant tout un emploi stable, bien rémunéré, et aussi un emploi qui est en adéquation avec leurs valeurs qu'on va développer plus tard. Donc, le contexte actuel, on est dans un contexte à la fois post-crise sanitaire, mais dans un contexte de crise, on va dire, économique, et aussi dans un contexte où il y a des emplois, soi-disant, mais personne, en fait, n'y trouve son compte. Et qu'est-ce qu'on remarque, en fait, aussi? Quels sont les enjeux aujourd'hui? En fait, les enjeux des jeunes diplômés, des étudiants et des jeunes actifs, on retrouve des enjeux, avant tout, des enjeux qui sont liés au contexte, des enjeux sociaux et économiques, au contexte, en fait, économique. Ces enjeux-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur aux jeunes? Aujourd'hui, les jeunes sont surexposés, en fait, aux inégalités sociales. Et cette surexposition font que les jeunes, aujourd'hui, sont plus sensibles aux inégalités économiques qu'on retrouve dans la société, notamment les discriminations. Aujourd'hui, un jeune... Alors, il n'y a pas que la discrimination raciale. Ça, c'est aussi un élément important. Mais il y a aussi du fait que ces jeunes ont peur de la précarité. Donc, en fait, la précarité, ce sont une préoccupation importante des jeunes. Ils ont peur également du coût de la vie, parce qu'on constate que si les prix augmentent, le revenu ou le rentrée d'argent, en fait, baisse. Ces jeunes ont aussi peur du coût de logement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fait depuis bientôt 2 ans que nous sommes dans une crise de logement. On ne construit pas assez de logements et les quelques logements qui sont disponibles sur le marché sont frappés de diagnostics de performance énergétique très mauvais. Des logements qui font sortir du marché parce qu'ils ne sont pas louables, ce sont des parois thermiques. Et sans oublier que bientôt, on va avoir les Jeux Olympiques, les JO à Paris, et que beaucoup de logements ne seront pas disponibles pour cette jeunesse qui viendrait travailler dans la capitale ou qui voudrait y rester pour chercher un emploi. Parce que tout simplement, de l'autre côté, il y a les propriétaires qui font aussi de la spéculation et qui veulent absolument sortir des logements qui étaient dans un contexte en fait résidentiel, en faire plutôt du logement touristique. Donc, le coût de la vie est un facteur très important parce que les jeunes ont peur aussi donc du coût de la vie, du fait qu'il est difficile de trouver un emploi stable, bien rémunéré. Il est difficile d'accéder en fait au logement. Et tous ces éléments-là, en fait, préoccupent davantage en fait les jeunes sur le plan de la santé. On constate que le bien-être mental de la jeunesse est une préoccupation centrale parce que les jeunes sont frappés de stress, d'anxiété, mais aussi de dépression. Donc aujourd'hui, en fait, les enjeux qu'on observe en fait pour les jeunes après ou en fin d'études, c'est qu'on a des enjeux qui sont liés sur le plan économique, mais aussi des enjeux qui sont liés sur le plan de la santé, parce que l'aggravation ou la gravité de la situation a un impact important en fait sur la santé. Mais quelles sont les options qu'offre aujourd'hui en fait la vie aujourd'hui? Quelles sont les options? Alors, il faut savoir que quand on finit les études en France aujourd'hui, on a la possibilité de se mettre à son propre compte en fait, d'être indépendant. On a aussi le choix de rentrer dans le moule, c'est-à-dire trouver un emploi stable, bien rémunéré, que ce soit dans la fonction publique ou que ce soit dans le privé. Mais il y a aussi l'option donc de lancer son entreprise, en fait, de lancer une start-up, de changer le monde et d'aller conquérir en fait, le monde. Et on constate, en fait, depuis quelques années, qu'il y a aussi une option alternative qui monte de plus en plus, des gens qui rejettent en fait, les trois options, se mettre à son compte, lancer une start-up ou rentrer dans le moule, et ils développent en fait, une solution alternative, quitte à déménager, quitte à se créer des emplois de plus en plus en accord avec leurs valeurs. Donc ça, c'est quelque chose en fait, qu'on constate le plus. Mais comment on peut bâtir une direction de vie? Alors, pour bâtir une direction de vie, il faut commencer par regarder les options qui s'offrent à nous et de se dire, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Eh bien, il faut savoir que on peut retrouver différents profils. Il y a des jeunes diplômés qui peuvent tout simplement se définir comme épicuriens. C'est-à-dire que leur direction de vie, c'est vivre au jour le jour, se faire plaisir, voyager, profiter de la vie. Ça, c'est une direction de vie qu'ils prennent. Après, est-ce qu'ils sont conscients des impacts après ou pas? Il y a ceux qui veulent se lancer dans la création de société, dans la création d'activités. Ça aussi, c'est une forme de direction de vie. On peut se dire, bon voilà, j'ai envie de créer ma boîte, j'ai envie d'être à mon compte, d'être indépendant. Il y a ceux qui vont, par exemple, rechercher avant tout la sécurité financière parce qu'ils veulent trouver tout de suite en fait, un emploi stable. Et il y a ceux qui veulent aussi se dire, bon voilà, je commence, j'ai déjà un patrimoine et je souhaiterais fructifier par exemple en fait ce patrimoine immobilier. Donc on voit que les directions de vie vont dépendre aussi donc de son milieu social. Donc est-ce que si on a un héritage, on a déjà un patrimoine en fait, on a tendance à prendre une direction qui tend à fructifier ce patrimoine. Il y a ceux qui sont issus en fait de milieux modestes et qui pensent tout de suite en fait se mettre dans une situation où ils seront stables financièrement et économiquement. Il y a ceux qui se disent « j'ai trop souffert » ou peut-être que je n'ai plus envie de rentrer dans un moule et que je préfère en fait profiter de la vie, d'être un peu plus épicurien. Et puis il y a ceux qui se disent « bon voilà, moi je suis de nature aventurière, j'aime changer le monde, j'aime prendre des risques, donc je vais créer ma boîte ». Donc ce sont des directions de vie en fait, qui sont là et que ça mérite en fait pour chacun d'avoir un plan justement pour bâtir en fait un cap qui est très clair. Donc, ce qui nous amène à la question, pourquoi il faut avoir des repères de vie? Alors, pour avoir des repères de vie, tout simplement, c'est que chacun se fixe des objectifs. Et quand on se fixe des objectifs, il faut avant tout définir un cap clair et parce que un cap qui est clair va te structurer, va te donner des étapes, on va dire des mini-étapes et des étapes opérationnelles pour te permettre d'atteindre ce qu'on appelle ta direction de vie. Et c'est important Donc, de se choisir une option dès le départ. Et quand on se choisit une option, on va concevoir une stratégie et ces stratégies vont être déclinées en fait en phase opérationnelle. Et en phase opérationnelle sur le terrain, à savoir, est-ce que si je suis déjà héritier, comment je peux prendre soin de mon patrimoine? Si je suis fonctionnaire ou j'ai trouvé un emploi stable aujourd'hui, comment je peux décliner mes projets de vie? Si je lance ma boîte, comment je peux définir en fait des objectifs pour scaler, pour atteindre en fait une certaine taille à cette boîte, pour que la boîte puisse s'autogérer ou que je puisse la vendre ou que je puisse m'y associer ou que je puisse en fait avoir une équipe et continuer en fait à bâtir quelque chose. Donc voilà, voici en fait les différentes directions que les gens peuvent prendre. Mais revenons un petit peu à quelque chose qu'on n'a pas occulté, c'est que c'est bien d'avoir des repères de vie, mais il faut aussi revenir aux fondamentaux, à ce qu'on appelle les piliers de la vie. Eh ben, les piliers de la vie, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, la famille, il y a des gens, par exemple, dans leur vie, leur pilier où ils vont se reposer avant tout sur la famille. Donc, en fait, tout va être bâti autour de cette famille. Tout ce qui va être construit sera construit, en fait, autour de cette famille. Donc, la famille, ça reste un pilier. Donc, en fait, ils vont travailler pour nourrir leur famille. Ils vont tout faire ensemble, en fait. Ils vont peut-être faire un grand mariage parce qu'ils veulent avoir leur famille à côté, impliquer toute leur famille. Ils veulent aussi avoir beaucoup d'enfants parce que c'est important. La famille reste un pilier très important. Certains choisissent le pilier de la richesse. C'est-à-dire qu'ils, à tout prix, ils veulent devenir riches. Ils veulent être riche, être reconnu riche, avoir un gros patrimoine. Ça, c'est aussi des piliers de la vie. En fait, la richesse, la détention de patrimoine, la détention d'actifs reste en fait un élément très important. Et puis à ceux qui sont, je dirais, plutôt voyageurs ou plutôt du style à changer le monde, à vouloir changer le monde, à vouloir créer quelque chose en fait. Ça, c'est très important. Donc, en fait, de voir que ça existe, ces profils-là dans la nature. Mais à quel moment, aujourd'hui, il faut commencer à y songer, en fait? Il faut commencer à se dire, voilà, à quel moment on doit poser les bases pour avoir ce qu'on appelle des repères de vie. Eh bien, je vais vous parler, en fait, de mon expérience, en fait, personnelle. Enfin, moi, ce que je constate, c'est que les jeunes sont hyper sollicités, sont extrêmement sollicités dans la vie parce qu'on est dans un monde hyper connecté. Donc, constamment, on a des notifications, constamment, on a des sollicitations par la publicité, par la pression sociale pour faire quelque chose. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le temps de mûrir notre réflexion, on n'a pas le temps d'approfondir un certain nombre de choses. Pour parler de mon expérience professionnelle, moi j'ai alterné, au moment où j'étais étudiant, j'ai alterné entre les études, les jobs étudiants, les stages, au point que j'avais en 5 ans pratiquement pas pris de vacances. Parce que je n'avais pas le temps d'en prendre. Donc au moment où je devais partir en vacances, je devais travailler pour avoir un peu plus de ressources à la rentrée. C'était dû au fait aussi que j'ai des origines modestes. Donc forcément, j'avais besoin des vacances pour travailler. Je n'avais pas besoin de faire une pause. Et que pendant l'année scolaire, je voulais absolument me concentrer pour être diplômé à la fin de mes études. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis rentré dans ce cycle infernal études, job d'été, diplôme. Au point que j'ai fini par trouver un travail au moment, avant même d'être diplômé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait des études, j'ai pris un stage, parce que dans le lot de stages que j'avais postulé, forcément, je n'ai pas eu tout ce que je voulais, donc j'ai pris le stage qui m'a été accepté, j'avais cumulé une expérience, et tout de suite, je devais avoir un logement, ou conserver un logement, et ou payer un loyer. Donc j'ai dû prendre le premier poste en fait qui m'a été offert avec le salaire qui m'a été offert à l'époque, mais je n'ai pas eu le temps vraiment de faire un bilan, de me poser la question et de me dire, ah tiens, est-ce que je suis en phase avec mes valeurs? Est-ce que je suis en phase avec moi-même? Et du coup, je suis rentré dans le secteur du digital marketing à travers dans la publicité en ligne. Alors, avec le recul, ce n'était pas forcément ce qui me correspondait, mais j'ai fait ce choix-là parce que j'avais peur à la fois de me retrouver dans la précarité. J'avais peur d'avoir un coût de vie très élevé. Je devais assumer mon logement, mais aussi j'étais conscient que je pouvais, j'étais conscient aussi des discriminations que j'ai pu en être victime. Donc, j'ai manqué vraiment, en fait, du recul. Je n'ai pas pris le temps, moi-même, d'étudier, en fait, le terrain de l'emploi, d'étudier, en fait, les enjeux de la vie, d'avoir des repères vraiment de vie où je me dis, là, je commence, en fait, à avoir un cap, en fait, et un plan. Donc, moi, ce que je préconise aujourd'hui, en fait, pour tout jeune diplômé, pour tout jeune actif ou pour tout jeune, on va dire, pour des étudiants en fin d'études, ce qu'il faut aujourd'hui, en fait, faire, moi, je préconise, en fait, trois choses. La première des choses, c'est qu'à un moment donné, il faut rompre avec cette vitesse. On n'est pas des bolides. Notre cerveau et notre corps n'est pas fait pour rentrer dans un monde de vitesse. Nous devons prendre le temps. Donc, à chaque fois qu'on finit quelque chose, il faut qu'on puisse prendre le temps. Il faut aller à contre-courant. Il faut, aujourd'hui, un étudiant en fin d'études, il faut qu'il se donne minimum 3 mois. Ça peut être de 3 mois à 6 mois, mais minimum 3 mois juste pour se reposer, juste pour se poser. Ces 3 mois permettront de faire le vide dans sa tête, permettront de s'interroger, et de voir vraiment quelle direction on veut prendre. Alors, peut-être que c'est plus facile pour ceux qui ont des parents à côté, qui peuvent aller rester chez papa-maman ou dans la famille, mais pour ceux qui ne le sont pas et qui écoutent ce podcast, il faut vraiment que vous dites, je vais prendre 3 mois de ma vie, je vais investir sur moi, ma personne, et pendant ces 3 mois, je vais me reposer, je vais lire, ça c'est très important, je vais lire et je vais connaître toutes les options de vue. Vous allez lire des bouquins sur le nomadisme, vous allez lire un bouquin sur la semaine de 4 heures de Stanley, vous allez lire des bouquins comme « Ma vie sur mon sac à dos », enfin, tout ce que vous pouvez trouver à la fois en développement personnel. J'ai créé ma boîte, j'ai lancé ma boîte, j'ai lancé une ferme, je ne sais pas, écolo. Lire tout sur le sujet, parce que vous avez besoin avant tout de savoir dans quoi vous engagez. Donc, il faut que vous lisiez des bouquins sur ceux qui sont indépendants, ceux qui sont sur la route, qui sont nomades et qui travaillent de pays en pays, ceux qui se sont expatriés, ceux qui se sont posés. Il faut que vous lisiez sur ceux qui ont lancé leur boîte, ceux qui ont fait un parcours dans l'entreprise en tant que salarié et ceux qui se sont lancés dans la fonction publique et qui travaillent ou ceux qui travaillent en tant qu'intérimaire, en tant que travailleur saisonnier, CDD. Il faut que vous lisiez pour vous faire une opinion et vous dire, est-ce que ces vies-là cochent avec la mienne ou pas? Après avoir fait cette lecture pendant 3 mois, que vous êtes nourri vraiment de connaissances en fait sur le sujet, vous allez faire votre bilan de compétences. Et il y a des organismes pour ça, pour faire des bilans de compétences, pour se dire, voilà, quelles sont mes limites? Où est-ce que je veux y aller? Qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est quelque chose, en fait, moi, qui m'a manqué. Prendre le temps de lire, de me poser et de faire un bilan. Et puis, dans tous les cas, il faut que vous ayez un plan 18-27 ans. Il faut que vous ayez un plan 18-27 ans parce que ce plan-là, c'est les premiers jalons de la vie que vous allez poser. Et vous ne pourrez pas faire un plan si vous ne vous nourrissez pas d'une matière qui est très importante. En fait, c'est la connaissance et le peu d'expérience que vous aurez cumulé. Donc, quand vous allez bâtir un plan, vous allez tout simplement vous dire, bon voilà, moi j'ai lu sur la vie en tant que créateur de start-up. J'ai lu sur travailleur indépendant nomade. J'ai lu sur le consultant indépendant, le micro ou l'auto-entrepreneur. J'ai tout lu sur la vie dans les boîtes, les grosses boîtes, les start-up. J'ai tout lu sur les fonctionnaires. Quand vous aurez fait ce tour-là, ou moi-même j'ai une expérience en tant que porteur de projet, en tant que créateur de quelque chose. Quand vous aurez tout lu, eh ben, il faut que vous ayez un plan. Et dans ce plan-là, vous allez revenir en fait au pilier en fait de la vie et vous dire voilà, est-ce que je suis plutôt famille? Est-ce que mon projet de vie, c'est d'amasser des patrimoines, des fortunes? Est-ce que je veux vraiment impacter le monde, changer le monde? Et dans toutes les options en fait, que vous allez retenir, il faut savoir que vous allez vous établir dans un territoire. Donc, il vous faut un logement. Et vous, en matière de logement, vous vous positionnez comment? Est-ce que vous voulez changer de logement tous les 4 matins? Vivre dans un caravane? Est-ce que vous voulez être propriétaire? Est-ce que vous voulez être locataire? Est-ce que vous voulez être en colocation? La question du logement, c'est une question qui est centrale, qui doit être tranchée. Une fois qu'on a tranché la question du logement, donc c'est une incidence sur l'activité qui va vous permettre de générer des revenus. Est-ce que je veux choisir une activité, on va dire, stable, où je suis salarié, où je me lance dans la création de ma propre boîte ou de ma start-up? Et donc là, je me positionne en tant que profil, en fait, qui aime le risque, qui aime le challenge, qui aime le goût du dépassement de soi. Ou est-ce que je me positionne sur un poste comme fonctionnaire, que ce soit un fonctionnaire de mairie, de département ou d'État, toutes ces options-là, ou tout simplement je choisis dans ma vie de ne pas travailler, c'est-à-dire que je vais vivre soit des aides sociales. Donc, toutes ces questions, en fait, méritent de se les poser. Et une fois qu'on se pose ces questions-là, les seules réponses qui vont vous permettre d'identifier des repères de vie ou de dresser des repères de vie, c'est ce fameux plan que vous devez faire de 18 à 27 ans. Alors, il n'est pas réservé aux 18-27. Vous pouvez faire votre plan 27-34 ou 34-40. À tout moment de votre vie, il est possible de se poser et, par rapport à votre expérience, d'avoir des repères en fait, dans la vie. Mais le maître mot, l'élément le plus important, c'est que vous ne soyez pas noyé dans le train-train quotidien. Il faut qu'à un moment donné dans notre vie, on puisse économiser, mettre un peu de côté pour pouvoir avoir une retraite, je dirais, spirituelle et physique, avant la grande retraite avec R majuscule, pour faire un bilan et se poser des questions. Et ce qui nous manque réellement, c'est cette aptitude, en fait, à nous retirer du monde, à pouvoir lire, réfléchir, poser vraiment les choses et les accepter aussi. En fait, on est constamment en train de jongler. On est aussi, voilà, j'aime bien cette histoire d'hamster dans une roue. On est constamment dedans. Donc, on pédale, mais c'est pour pédaler plus tard, pour pédaler encore. Et c'est ça ce qui est dommage. Donc, on devrait, pour chacun qui écoute en fait cet épisode, s'il a des étudiants à côté, les sensibiliser sur cette retraite de 3 à 6 mois, cette période sabbatique où il est important de se poser, parce que pour des plans de vie, pour des engagements d'une trentaine, d'une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années, on ne peut pas décider ça à la va-vite, on ne peut pas avoir la pression que moi j'ai eu en se disant, bon voilà, mes conditions ne me permettaient pas de le faire. Mais avec le recul, mais si j'y avais été aidé, j'aurais forcément fait d'autres choix qui ne sont pas les choix faits actuellement. Donc voilà. Donc je tenais en fait à partager cela avec la population qui arrive en fin d'études, tout en sachant que nous sommes au mois de fin mars et que bientôt c'est les examens, ou c'est peut-être déjà le cas, mais il va y avoir les vacances d'été. Donc j'espère que cet épisode sera profitable et bénéfique à cette population, et ça permettrait de se dire, voilà, à la fin de mes examens, je vais prendre le temps donc de me reposer, lire, faire un bilan, et puis pendant ce temps-là, j'en profiterai pour faire un plan pour que si je reviens en septembre ou octobre, au moins j'aurai posé vraiment et j'aurai fait mes choix de vie, j'aurai mes repères de vie. Voilà, merci et n'hésitez pas vous de votre côté, pour raconter soit en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Petit Sou et Gros Sou, comment ça s'est fait la transition entre les études et l'entrée dans la vie active. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sou, Gros Sou. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt. N'oublie pas, Petit Sou aujourd'hui, Gros Sou demain.